Que Dieu soit béni, oui, pour la famille du Seigneur, d'être là où le Seigneur bâtit son Église. Jésus l'a dit, je bâtirai mon Église. Combien on est bien quand on est là où Dieu nous veut, à l'écoute de sa parole. Alors ce matin, mon sujet est un sujet simple. Il ne se passe pas une semaine sans que je reçoive sur Internet une question. Toutes les semaines, au moins, on me pose une question. Un chrétien peut-il perdre le salut? Voilà. C'est une question qu'on me pose toutes les semaines. Un chrétien peut-il perdre le salut? Alors je me suis dit, eh bien on va ouvrir la parole et regarder si un chrétien peut perdre le salut. Alors, on n'a que l'embarras du choix. Le problème est d'autant plus sérieux que c'est le sujet doctrinal qui est le plus développé dans la Bible. Il est presque impossible de se tromper, c'est impossible. On va lire un texte, 1 Jean chapitre 2, verset 28. Mais mes frères et sœurs, c'est quand même grave qu'un chrétien puisse penser qu'on ne peut pas perdre le salut. Parce que dès le début, quand vous lisez la Bible, vous voyez de suite qu'on peut perdre la grâce. 1 Jean, chapitre 2, verset 28. Alors on va en lire des versets et vous allez en trouver. Je me demande bien si je ne vais pas faire un petit livret avec tous les textes qui indiquent qu'on peut perdre le salut. Je me demande bien s'il ne faut pas le faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Un chrétien peut-il perdre le salut et mettre la centaine, les 200 textes qu'il indique d'une manière claire? Regardez ce que dit l'apôtre Jean. 1 Jean chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'à l'enlèvement de l'Église, il y a des chrétiens qui seront prêts et il y en a d'autres qui n'auront pas veillé sur le salut de leur âme et qui ne seront pas enlevés, qui seront éloignés de lui. Mais on n'a que l'embarras du choix, je vous assure. Alors, regardez dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 2, il est parlé de ceux qui ont connu la grâce. Regardez, 2 Pierre, non mais moi ça me fait de la peine que des pasteurs enseignent des choses aussi graves. Ça me fait de la peine. Pour moi, il y a un aveuglement terrible, ou alors ces pasteurs ne lisent pas la Bible. C'est l'un ou l'autre, ou les deux. 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. Ils leur promettent la liberté, ces docteurs, ces faux docteurs, bien sûr, ces pasteurs, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si, après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Donc ce sont des chrétiens qui reviennent dans le monde. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur a été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. On peut faire ça toute la matinée. Hébreux chapitre 6. Mais toute la matinée, on pourrait prendre des textes. Hébreux chapitre 6, verset 1er. C'est un sujet un peu plus sérieux celui-là. Parce qu'il est sévère ce texte, mais il faut bien l'expliquer. Hébreux chapitre 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Regardez bien. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir, et qui sont tombés, soit encore renouvelé et amené à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Là, c'est un texte, je vous avoue, qui est très sévère, parce qu'il explique qu'il est impossible que ceux qui ont goûté le Saint-Esprit, qui ont été éclairés, soient encore renouvelés. Pourquoi ? Parce qu'il crucifie à nouveau le Fils de Dieu. Je vous explique, je vais vous donner un exemple. J'étais catholique, c'était mon cas. J'étais catholique, je priais les idoles. On me disait, si tu perds les clés, il faut prier Saint-Antoine. Il a la faculté de t'aider à retrouver les choses perdues. Pour vous dire comment on est bien. Il faut prier la Vierge, parce que la Vierge, c'est une femme, elle te comprend mieux, etc. Je me convertis, j'ouvre la Bible, un des premiers textes sur lequel je tombe, il n'y a qu'un médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il n'y a qu'un médiateur pour aller au ciel, il n'y a qu'un chemin. Le seul qui vous entend, le seul qui puisse faire que Dieu vous entende, c'est Jésus-Christ. Vous êtes d'accord? Il vaut mieux. Je me refroidis, j'abandonne le Seigneur, je reviens à la prière de Marie. Après tout, je reviens. Est-ce qu'on peut revenir à ce qu'on a vomi? Mais bien sûr, on est libre. On est toujours libre. Judas a été libre de faire ce qu'il a fait. Je reviens à la prière pour Marie. Je repris la Vierge, je repris Saint-Antoine, parce qu'il m'arrive régulièrement de perdre ma carte bleue, etc. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux être sauvé? C'est impossible. C'est impossible. Parce que je suis revenu à mes abominations. Je suis revenu aux idoles. Et les mots que j'utilise, écoutez bien, ils sont bibliques. La Bible dit que celui qui prie une idole, c'est une abomination. Donc, ce texte explique bien que si je rétrograde et que je me remets à pratiquer ma religion, mon ancienne religion qui ne sert à rien, aucune religion ne sert. Il n'y a que Jésus qui sauve. Ce n'est pas l'église évangélique ou l'église protestante, c'est Jésus qui sauve. Aucune religion ne peut sauver. Donc, il est impossible que je sois renouvelé, puisque c'est comme si je recrucifiais le Seigneur Jésus-Christ. Mais, dans n'importe quel cas de figure, un rétrograde peut revenir à Dieu. Vous avez lu les lettres aux sept églises? Est-ce que vous avez lu les lettres aux sept églises? Vous les avez lues? Il n'y en a que huit qui ont lu les sept. Écoutez, dans l'Apocalypse, il y a sept lettres adressées aux églises. Est-ce que ces églises vont bien? Est-ce qu'elles vont bien, ces églises? Il y en a une, combien qui vont bien sur les sept? Il y en a une, c'est l'église de Philadelphie. Les autres vont mal, très très mal. Et pourtant, dans ces églises où même Dieu dit à une que là est le trône de Satan, pour vous dire comment on peut donner accès à la puissance de l'ennemi avec les fausses doctrines. Je pense à un homme qui m'appelait hier soir, il est dans une église évangélique, écoutez-moi bien, ça s'est passé hier après-midi. Un homme qui m'appelle, qui me dit, « Monsieur Gauche, j'ai une question à vous poser, je suis dans une église évangélique, je ne sais pas ce qui est passé dans le cœur du pasteur, il a baptisé un enfant. » Vous avez vu comment on peut vite revenir en arrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Une église évangélique. Est-ce qu'on peut baptiser les enfants? Non, on présente les enfants. Et les gens se baptisent parce que c'est un engagement d'une bonne conscience. Mais l'échec, il peut être fatal. Mais s'il y a repentance, et dans toutes les églises, on le voit dans l'Apocalypse, le mot d'ordre du Seigneur, c'est « Repens-toi et je te donnerai. Repens-toi et tu régneras avec moi. Repens-toi et tu retrouveras, etc. » Donc, s'il y a une véritable repentance, un homme peut revenir au Seigneur. Vous me suivez? Mais s'il n'y a pas de repentance au départ, et un esprit de repentance, vous remarquerez que dans chacune de ces églises, Dieu dit repens-toi. On va lire on peut le lire. C'est important, mes frères et sœurs. Parce qu'il y a des pasteurs qui ont dit que si quelqu'un chutait, il était impossible qu'il revienne à Dieu. Avec ce texte d'Éphésiens. Oui, c'est impossible s'il ne revient pas par Jésus-Christ. Parce que pour revenir à Dieu, il faut revenir à Jésus-Christ. On prend quelle église? Celle qui va mal? Très mal? Laquelle vous voulez? Celle qui va mal ou très mal? Hein?
Elle est mal, à moitié, allez, on va prendre moitié. Apocalypse 3, verset 1er. Elle va mal parce que le Seigneur dit qu'ils sont morts. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Et Apocalypse chapitre 3. Regardez bien, c'est important mes frères et sœurs, parce que vous serez amenés à rencontrer des gens qui ont peut-être abandonné Dieu. Et il faudra les aider. Apocalypse chapitre 3, verset 1er, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu, les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Vous remarquerez que souvent Dieu dit, je connais les œuvres. Les œuvres c'est bien, mais c'est pas ça qui sauve. Par contre, si on n'en fait pas, c'est pas bon non plus. On va le voir tout à l'heure si on a le temps. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Oui, on peut paraître vivant. Un peu d'artifice, un peu d'animation, un peu de tralala, on peut paraître vivant. Et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit doit parler aux églises. Vous entendez ? Le Saint-Esprit doit parler aux églises. Le Saint-Esprit a quelque chose à te dire, à vous dire. Ce n'est pas possible que Dieu n'ait pas quelque chose à nous dire. Aujourd'hui, ce matin, si Dieu ne vous parle pas, c'est que vous n'entendez pas, c'est que vous n'écoutez pas, ou c'est que vous avez envie d'entendre ce qui vous convient. Dieu parle à cette église, il aime cette église. Elle est encore accessible. Le problème, c'est quand on n'est plus accessible, quand on est exempt du châtiment, dit l'apôtre. Si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes des bâtards. C'est pas bon ça, d'être un bâtard dans le royaume de Dieu. Quand Dieu a dû abandonner un de ses enfants parce que cet enfant-là ne veut plus de correction. Ces églises vont mal, très mal, à part une, mais elles sont quand même encore capables de recevoir la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment bon signe, tant qu'on est capable d'entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Cette église, ça va pas. Mais Jésus dit, repens-toi. Si tu repens, tu peux être un vainqueur. D'ailleurs, on voit que c'est dit au singulier, celui qui vaincra. Ça nous laisse penser qu'il n'y aura pas beaucoup de vainqueurs lorsque Jésus reviendra chercher l'église. Ça nous fait, hélas, réfléchir à plein de prophéties qui correspondent à la parole de Dieu. Donc, un homme qui a reçu la vie et qui rétrograde, il est mort. Vous vous rappelez les paraboles de Luc chapitre 15? Il y a trois paraboles dans Luc chapitre 15. Il y a la parabole de la brebis perdue, la drachme perdue et le fils perdu, ou le fils prodigue. Quand le fils prodigue s'en va, il se retrouve au milieu des cochons. Vous vous rappelez? C'est l'image de l'impureté. On ne pouvait pas tomber plus bas pour un juif. En tous les cas, pour un juif, l'image que donne Jésus est l'image la plus déchéante. Il ne peut pas y avoir de plus grande misère. Se retrouver à garder des cochons, qui est un animal impur pour les juifs. Donc cet homme, il va revenir. Il y a une repentance, il dira, il va être sérieux, j'ai péché, il va rentrer en lui-même. J'en profite pour vous dire que si vous lisez les textes sur l'idolâtrie, il est dit que ceux qui prient les idoles ne peuvent pas rentrer en eux-mêmes et ils ne sauveront pas leur âme. C'est très grave de prier les idoles. C'est pour cela, on se dit, mais comment ça se fait que des gens qui prient des idoles, comment ça se fait quand même, ils prient Dieu, ils mélangent, mais parce que c'est une abomination et parce que c'est grave devant Dieu. On ne se rend pas compte, nous, parce qu'on est habitués. Nous, on banalise beaucoup de choses. Mais mes frères et sœurs, c'est une abomination de prier une idole. Et ça endurcit le cœur. La Bible est catégorique, c'est Dieu qui le dit. Il ne sauvera pas son âme. Il ne pourra pas rentrer en lui-même. Je crois que c'est dans Ésaïe 44. Il ne pourra pas rentrer en lui-même. Et quand ce gars revient, il rentre en lui-même, il se rend compte de l'état de perdition dans lequel il est. Et je crois que c'est ce qui est grave aujourd'hui dans les églises, c'est que les gens ne se rendent pas compte qu'ils peuvent être dans l'église et rétrograde. Janson disait en présentant les chants, je suis là, je suis toujours fidèle. Bon, heureusement. Heureusement qu'on ne fait pas chanter des rétrogrades. Mais je vous pose la question. Est-ce que ça peut arriver dans une église qu'un pasteur soit rétrograde ?
Vous ne me répondez pas beaucoup. Est-ce qu'un pasteur peut être rétrograde tout en prêchant l'évangile? Est-ce qu'un chrétien peut être rétrograde tout en exerçant une activité dans l'église? Mais oui! Quand j'en suis chanté, je dis, mais heureusement, je me suis dit qu'il est fidèle. Mais j'ai pensé de suite à ce texte dans Matthieu, le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 7. C'est un chapitre que quelqu'un qui se convertit va découvrir la première semaine de sa conversion. Quand on se convertit, on lit combien de textes par jour? Tiens donc. Je me convertis ce soir. Enfin, mais pas moi, mais quelqu'un se convertit ce soir. Qu'est-ce qu'il va faire normalement? Sérieusement? Il va lire la Bible, oui ou non? Mais c'est obligé. Si vous ne lisez pas la Bible, c'est qu'il y a un problème. Si vous n'aimez pas lire la Bible, vous avez un gros problème. C'est du légalisme, ça, ou c'est la vérité? C'est la vérité. Parce qu'en plus, Jésus nous pousse à entretenir notre âme, à entretenir ce feu. Veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Bien sûr qu'il faut le faire avec cœur. Mais le chapitre 7, c'est le début de la parole de Dieu dans Matthieu. Et le Seigneur dit, mais ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et Jésus leur répondra, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Donc on peut être rétrograde tout en étant dans l'église. Ça vous choque ce que je vous dis ou non? Pour nous les rétrogrades, ce sont les fils prodigues, ils sont partis de l'église, ils se sont vexés, pour ci, pour là. Mais ce n'est pas évident du tout. C'est très difficile. C'est pour ça que la Bible dit ne jugez pas. On ne peut juger que le péché dans l'église. S'il y a du péché dans l'église, là, il faut absolument que les anciens règlent ces choses. Mais on peut être rétrograde tout en étant dans l'église. Et plus le niveau spirituel diminue, plus il sera archi difficile de se rendre compte des choses. Pour peu que les fausses doctrines pénètrent dans les églises, on l'a vu la semaine dernière, il y a 15 jours, quand les doctrines de Satan rentrent dans l'église, il n'empêche qu'il y a un aveuglement total. Et Jésus est catégorique, c'est pour ça que moi je sais, le premier jour de ma conversion, je me souviens que j'ai lu plusieurs chapitres dans l'évangile de Matthieu, j'ai lu le sermon sur la montagne, parce que quand même c'était le premier sermon de Jésus, je me suis dit, tiens, qu'il faut que je connaisse ça. C'était le premier soir, je m'étais converti, c'était en pleine nuit, j'étais assoiffé, et j'ai lu de suite Matthieu chapitre 7, où on voit bien que quelqu'un peut perdre le salut. C'est sérieux. Alors aujourd'hui, on est arrivé à un stade où c'est grave ce qui se passe. Bon, sûr qu'à Sainte-Agne, vous êtes quand même, soyons honnêtes, on va pas quand même faire les faux humbles, mais on est sérieux avec la parole. Mais il y a des églises de plus en plus, on enseigne même que tout le monde est sauvé. Tout le monde sera sauvé. Regardez dans Éphésiens, je vais vous donner un verset. Il faut aller parfois sur Internet, bon, ça ne vous intéresse pas, ce n'est pas plus mal. Certaines doctrines. Mais par exemple, dans Éphésiens, on va prendre deux textes. Je vais prendre exprès Éphésiens, chapitre 1er, verset 10 et verset 11. Deux versets qui sont utilisés par deux sectes différemment, vous allez voir. Éphésiens, chapitre 1er, verset 10. On va lire le verset 9 pour avoir la phrase complète. Éphésiens chapitre 1er, verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Si vous connaissez le mouvement des universalistes, ils utilisent ce verset comme point de mire, pour expliquer ce que je viens de vous dire, à savoir que tout le monde sera sauvé. Vous avez vu? De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Tout le monde sera sauvé, même Satan. Voilà un verset de base qu'ils utilisent comme pivot pour expliquer le salut pour tous. Après, il y a d'autres dénominations, et même les protestants, par exemple, utilisent le verset 11. « En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestiné, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Nous sommes prédestinés. Donc, la doctrine de la prédestination, ça veut dire, dans leur doctrine, c'est ça. Ça veut dire que les gens sont prédestinés, ça veut dire que Dieu sait qui sera sauvé, Dieu sait qui sera perdu. Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que Dieu sait qui sera sauvé? Est-ce que Dieu sait qui sera... Oui, bien sûr. Dieu est tout puissant. Donc, il sait tout. Vous êtes d'accord? Il sait tout. Mais on a fait de ce verset sur la prédestination cette affaire que puisque Dieu sait qui sera sauvé, Dieu sait qui sera perdu, pourquoi évangéliser? Puisqu'après tout, Dieu sait d'avance qui sera sauvé, qui sera perdu. Vous me suivez? Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que l'homme est libre. Tous les hommes sont appelés. Tous. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Lorsque la croix est prêchée, comme je vais le faire pour terminer ce culte, vous entendez, vous acceptez, vous refusez, vous aimez, vous n'appréciez pas, vous vous en fichez, etc. Mais c'est vous qui choisissez. Et quand vous acceptez, vous vous prédestinez ou à la vie éternelle ou à la mort éternelle. Mais c'est vous qui choisissez. Si vous allez au ciel, c'est parce que vous aurez voulu obéir au Seigneur Jésus. Si vous allez en enfer, c'est parce que vous aurez choisi de désobéir et vous aurez trouvé tous les prétextes que vous voulez. Et croyez-moi, il y a quelqu'un qui va vous aider à trouver des excuses très valables pour ne pas que vous vous convertissiez. Mais vous finirez en enfer. Et on ne peut pas rire avec ces choses. On ne peut pas rire avec l'éternité des gens. Et c'est vous qui choisirez où vous voulez aller, si vous voulez aller au ciel ou si vous ne voulez pas y aller. Autrement dit, si vous voulez aller à l'enfer. C'est Jésus qui parle le plus souvent de la géhenne. Et il le dit en boucle, il le répète constamment. Et il parle, il reproche très 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 sévèrement au pasteur, même il dit à un moment donné, c'est dans Matthieu chapitre, c'est Matthieu 23, oui c'est dans Matthieu 23 où il dit, 23, lise-le avec moi. C'est, je crois, un des textes qui revient le plus souvent où Jésus rappelle, parle au pasteur et les traite d'une façon très sévère. Très, très, très sévère. Et moi, je comprends que Jésus ait été très sévère avec les pasteurs parce que ceux qui auront beaucoup reçu, il leur sera beaucoup redemandé. Et qu'on doit être honnête avec les gens. On doit être archi honnête. Mes frères et sœurs, je me dois d'être honnête avec vous. Je dois vous prêcher. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? C'est pour ça que c'est beau de chanter des cantiques sur la croix. Regardez, Matthieu 23, verset 15. C'est à des pasteurs. Déjà le verset 13. Non mais c'est des textes archi sévères. Pour que les pasteurs se tiennent à carreau, excusez-moi l'expression, devant des auditoires et qu'ils prêchent la parole de Dieu avec sérieux. Matthieu 23, verset 13. Malheur à vous! Malheur à vous, ça ne veut pas dire vous aurez un petit problème. Malheur à vous, ça veut dire que vous allez aller en enfer. C'est ça que ça veut dire, le malheur. Scribes et pharisiens, hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. C'est pas sévère, ça? Eh oui, on peut prêcher l'évangile et ne pas être passé par la repentance. C'est facile. Moi, vous me donnez un païen assez intelligent. Un païen. Moi, en 6 mois, je vous en fais un prédicateur. On essaye? Est-ce qu'on pourrait former un païen pour qu'il soit prédicateur? Est-ce qu'on peut le faire? Mais bien sûr qu'on peut le faire. C'est pas compliqué d'amener quelqu'un à préparer un sermon. C'est technique, quelque part. Et voyez, Jésus dit, il y a des gens qui ont prêché, qui n'ont pas pu prêcher parce qu'en fin de compte, ils ne sont pas rentrés dans le royaume de Dieu. Regardez au verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, ce sont des pasteurs de l'époque. Parce que vous courez la terre, la mer et la terre pour en faire un prosélyte, c'est-à-dire un nouveau converti. C'est ça un prosélyte, c'est quelqu'un qui vient de se convertir à Dieu. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous. Vous lirez ce chapitre et vous verrez que s'il y en a un qui a parlé de la géhenne, c'est le Seigneur Jésus qui parle de l'enfer. Mais aujourd'hui on en rit, on rit. Lorsque les gens parlent de l'enfer, c'est pour rire. Est-ce que vous l'avez remarqué? On se moque de celui qui prie, on se moque des églises, on n'ose pas prêcher sur l'enfer parce qu'on se dit mais les gens ils vont nous prendre pour des timbrés. Mes frères et sœurs, la colère de Dieu elle vient sur la terre et vous savez que c'est vrai. La colère de Dieu elle vient et celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeurera sur lui. Oui, les pécheurs iront à l'enfer s'ils ne veulent pas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. s'il ne réalise pas que sur la croix, c'est Dieu lui-même, dépouillé de sa gloire, qui est venu. On entend souvent la question, c'est une bonne question en plus, mais comment cela se fait-il qu'un seul homme, en parlant de Jésus, un seul homme ait pu, en quelques heures, payer pour le pardon de l'humanité entière? Parce que si tout le monde se repent, qui sera sauvé? Tout le monde. Mais comment cela se fait-il qu'un seul homme, un seul, puisse payer pour le péché de tous? C'est une bonne question en plus. C'est une très bonne question. Mais mes frères et sœurs, sur la croix, c'est pas... comment ils disent les témoins de Jéhovah? Je le dis parce qu'après tout, ça peut être qu'il m'écoutera. Les témoins de Jéhovah enseignent que Dieu a envoyé une créature innocente sur la croix pour payer. Dieu n'a pas envoyé une créature innocente. Dieu est lui-même venu. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Votre rachat, tout à l'heure, on va prendre le pain et le vin. Vous qui n'êtes pas encore convertis, moi je vous le dis, n'attendez pas, n'endurcissez pas votre cœur. Votre vie ne vous appartient pas. Votre voiture vous appartient. Votre maison vous appartient. Peut-être que vous avez 3 ou 4 lingots d'or à la maison. C'est le cas. Vous viendrez me voir à la fin. Mes frères et sœurs, ça, ils vous appartiennent si vous les avez gagnés honnêtement. Mais c'est très bien. Et moi, ça m'est entièrement égal. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, moi, ça m'est égal. Mais mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous faites de Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ n'est pas une créature innocente. Jésus-Christ, c'est Dieu qui est venu en chair sur la croix pour porter vos péchés. Sans ça, on était tous perdus. Et pourtant, il y en a qui arrivent à abandonner Dieu. Quand Paul parle de Démas, vous connaissez l'histoire de Démas? On n'en parle pas souvent de Démas. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de Démas? Non, pas beaucoup. Oh, ben on va, alors c'est dans Timothée. Alors attendez, c'est dans Timothée chapitre 6, où Paul parle de cet homme qu'il a abandonné. Regardez, mais ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Il faut comprendre une chose, que l'homme est libre, même si c'est un serviteur de Dieu. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4 verset 9. Regardez, ça devait être, c'est terrible, c'est écrit pas pour qu'on critique cet homme. C'est écrit pour qu'on fasse attention. 2 Timothée chapitre 4 verset 9. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné. Pourquoi? Par amour pour le siècle présent. Parce que quelqu'un ici d'ailleurs, mais c'était bien, quelqu'un me disait, oh, mais les gens qui rétrogradent, c'est qu'ils n'ont pas été convertis. Alors écoutez-moi bien, il y a des gens, c'est vrai, qui ne sont pas passés par la conversion. Il y a des gens qui sont tout juste passés par un embryon de repentance. Et je pense que ça vaut la peine de faire la différence entre la repentance, la conversion, la nouvelle naissance. Et le Seigneur a dit, repentez-vous et convertissez-vous. S'il y a beaucoup de gens qui ont abandonné Dieu, c'est parce qu'ils ne sont pas passés par la nouvelle naissance. Il n'y a pas cette conviction profonde par rapport à Jésus-Christ au calvaire. Ils sont là, ils peuvent chanter des cantiques sur la croix. Oui, c'est gentil, mais ça ne va pas plus loin. C'est pas gentil les cantiques sur la croix, c'est solennel les cantiques sur la croix. Vous entendez mes frères et sœurs, c'est quelque chose de profond, vous pouvez tout oublier sur la terre, mais il ne faut jamais oublier Gethsémané, il ne faut jamais oublier Golgotha. Démas était un compagnon, d'ailleurs il le dit dans Colossiens, regardez, ou dans Philémon. Timothée, Tite, Philémon, allez dans Philémon avec moi. Alors, c'est un compagnon, Philémon verset 24, regardez bien. Alors, on peut lire le verset 23. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, salue. Ainsi que Marc, Aristarque, et qui? Démas. Luc, mes compagnons d'œuvre. Démas était un serviteur de Dieu. Un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul, du grand apôtre Paul. Judas avait, moi je trouve, quelqu'un de bien au-dessus de lui. Non? Vous ne croyez pas que Judas avait un bon pasteur? Et vous savez, ça ne l'a pas empêché de rétrograder et de laisser Satan entrer dans son cœur. Pourquoi? Eh bien parce qu'il aimait l'argent. S'il aimait l'argent Et le problème, ça l'a perdu. Démas aimait le siècle présent. Et il faut faire attention aux choses de la terre. Merci Seigneur pour toutes les choses dont on peut jouir. Jésus a dit qu'il nous donne toutes choses afin que nous en jouissions. Oui ou non? Est-ce que Dieu, le Seigneur nous a donné un bon temple? Est-ce que c'est bien d'avoir un petit temple bien ventilé? Est-ce que c'est bien? Vous préférez qu'on soit dehors dans un bois, comme des millions de chrétiens sur la terre sont obligés de faire? Vous le savez qu'il y a des millions de chrétiens qui sont dans des bois pour se retrouver, en ne sachant pas s'ils vont revenir vivants ou ne pas aller en prison. Nous, on a des cultes. Dieu nous donne toutes choses afin que nous en jouissions. Mais nous devons faire attention à ne pas aimer le monde, parce que celui qui se rend ami du monde, il se rend ennemi de Dieu. Et le Seigneur Jésus l'a dit dans la parabole du semeur. Il dit que ceux qui écoute la parole de Dieu avec joie. Avec joie. Quelqu'un qui écoute la parole de Dieu avec joie, monsieur Gomet, il va pas se louper. Eh bien, Jésus, il est formel. Il dit que celui qui écoute la parole de Dieu avec joie, mais qui n'a pas de racine, vous le savez que c'est vrai. Parce que des fois, quand on lit pas les textes, on dit, oui, monsieur Gomet, vous dites des trucs, mais écoutez, ce que je vous dis, c'est la parole. Le Seigneur, il dit que celui qui écoute la parole, qui reçoit la parole de Dieu avec joie, mais qui n'a pas de racine, il croit pour un temps. Moi, c'est une phrase qui m'a brisé le cœur. C'est Jésus qui parle. Vous avez quelqu'un qui prend le baptême et vous savez que s'il ne s'enracine pas dans une vie de piété, il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Et le Seigneur ne vous obligera pas. Le Seigneur ne vous forcera pas. Parfois, on entend des prières qui n'ont ni queue ni tête, où les gens demandent à Dieu de les forcer. Dieu ne vous forcera jamais. Si vous voulez que quelqu'un vous force, il n'y a qu'une personne qui peut vous forcer. C'est vous. Et c'est écrit dans des prophéties, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». Oui, on peut perdre le salut. Moi, ça me brise le cœur. Franchement, je vous le dis, ça me brise le cœur. Pas quand un chrétien découvre l'évangile, mais quand un pasteur, quand des anciens, quand des églises entières enseignent qu'on ne peut pas perdre le salut. Alors que ça revient dans tous les livres de la Bible, qu'on peut abandonner le Seigneur. Vous avez lu tous les textes sur les pleurs et les grincements de dents. Vous avez lu les 7 textes qui parlent des pleurs et des grincements de dents. Vous avez vu les textes où Jésus parle de la géhenne. Je crois qu'il y a 12 textes dans la Bible qui parlent de la géhenne. Et il y en a 11, c'est Jésus qui en parle. L'autre après, c'est Jacques. C'est quand même important. Et il parle aux pasteurs. Il y a des pasteurs qui volent à l'enfer. Vous le croyez ça ou vous ne le croyez pas? Vous dites, mais monsieur Gou, il est trop sévère. Moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous le dire réellement. Moi, je pense que je ne suis pas assez sévère. Vous trouvez que j'exagère? Non, j'exagère pas. Et je ne fais pas de la fausse humilité parce que Dieu ne le bénirait pas, ce truc-là. Mes frères et sœurs, il faut être sérieux. On peut perdre le salut. On va lire un ou deux textes justement sur les pleurs et les grincements de dents. Le premier, c'est Jésus. Il n'y a que Jésus qui parle des pleurs et des grincements de dents. Le premier texte, c'est par rapport à la foi. Chaque fois, il y a un contexte particulier. Le premier, c'est dans Matthieu, un officier de l'armée fait une expérience merveilleuse avec le Seigneur. Il n'est même pas converti, ce gars. Il s'approche de Dieu, il fait des choses pour le Seigneur. Matthieu chapitre 8, c'est un homme qui a une véritable foi. Et pourtant, il est sur une voie de conversion. Donc, cet homme va comprendre l'autorité du Seigneur. Est-ce que vous la croyez, l'autorité du Seigneur? Que ce que Dieu a institué, c'est une bénédiction? Que la Sainte Seine, c'est une bénédiction? Et que quand on prend la Sainte Seine, on peut prendre la grâce, la guérison, la victoire. C'est pas du pain et du vin qu'on prend. Vous le comprenez bien. Quand Jésus dit « prenez et mangez », tout ce que Dieu a dit est important. Tout. Tout ce que Dieu a dit. Nous, on dit des choses, on les regrette. Ça vous est jamais arrivé de regretter quelque chose? Purée, si j'avais su, je ne l'aurais pas dit. Ça vous est jamais arrivé? Comme Madame Mussolin a l'air d'accord. Mais c'est vrai ça. Que de fois on aurait « si j'avais su, je me serais tu ». Mais quand Dieu a dit quelque chose, c'est la vérité. 1000 ans après, il peut le redire, il n'a pas changé d'avis. C'est sérieux, mes frères et sœurs. Le salut de l'âme, c'est sérieux. Vous acceptez cette prédication ou vous ne l'acceptez pas, moi, en vérité, ça ne me regarde pas. Mais vous devez entendre ces choses. Vous devez entendre. Sur la croix, ce n'est pas une créature innocente. On est dans le ridicule et dans l'abomination. Sur la croix, c'est Dieu. Vous entendez, mes frères et sœurs, sur la croix, c'est Dieu qui s'est dépouillé de sa gloire et qui est venu parce qu'il vous aime et il ne veut pas que vous alliez en enfer. C'est là que vous vous rendez compte de la noirceur du péché. Le péché, c'est grave. Ce n'est pas le fait de voler un bonbon, mais quand on pêche contre Dieu. Est-ce que vous le croyez, mes frères et sœurs? Donc dans Matthieu chapitre 6, 8, Jésus parle d'un homme qui va faire une expérience merveilleuse. Il a une grande foi, il a compris l'autorité du Seigneur. D'ailleurs, il le dit, verset 9, « Moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, il le fait. » Donc, c'est un homme, il a compris l'autorité. Mais il n'y a pas que l'autorité humaine, il y a l'autorité spirituelle. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en Israël, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Je pense que ça n'a pas dû leur plaire. « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et on peut mettre de Toulouse, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais qui, mes frères et sœurs, les fils du royaume, c'est des chrétiens, qu'ils étaient, ils ne le sont plus bien sûr, seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Les fils du royaume, ce sont des chrétiens qui auront perdu la foi, puisque le contexte, c'est la foi. Et c'est Jésus qui le dit. Il y aura des gens qui auront été dans les églises, mais qui n'auront pas la foi. Ils croient en Dieu, ils sont d'accord, pourvu que ça ne les dérange pas trop. Ils sont d'accord, pourvu qu'on n'aille pas trop dans le renoncement, la croix, l'obéissance, juste un Dieu qui bénit, un Dieu qui nous fasse du bien. Quand je suis malade, surtout qu'un Dieu qui me guérisse. Quand j'ai perdu mon boulot, surtout un Dieu qui me donne du travail. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, je crois que le Seigneur, il le fait ça. Je crois que Dieu pourvoit et je crois que Dieu guérit. Mais le Seigneur n'est pas notre serviteur. Le Seigneur, il est le Dieu du ciel et de la terre. Et on va passer devant lui. On va comparaître devant lui. Tous vous allez comparaître devant Dieu. Vous le savez qu'un jour vous allez comparaître devant Dieu. Je comparaîtrai devant Dieu, certainement même pour cette prédication. Et je crois qu'il faut veiller à ces choses. Et le Seigneur dit qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas la foi. Ce sont ces chrétiens-là auxquels Jésus fait allusion. Les fils du royaume, ce sont des chrétiens qui ont perdu la foi parce qu'on peut abandonner la foi. C'est écrit qu'à la fin du temps, les gens, ils abandonneront la foi. C'est écrit. Ils abandonneront la foi. Pourquoi avoir la foi? J'ai avec ma foi vivante, on ne fait que se moquer de moi au travail. C'est vrai que si vous avez une véritable foi, vous allez vivre dans la vérité. Oui ou non? Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine de vivre dans la vérité? Vous savez, il y a quelque temps de ça, on était en voiture avec ma femme. Et j'étais sur une route nationale et j'ai mordu la ligne blanche. Et il y avait écrit 60, j'ai pas fait attention et j'étais à 90. Juste au moment, je croise les motards. Je regarde dans le rétro, les motards font demi-tour. Bon, il m'arrête. Il me dit, alors monsieur, vous avez mordu la ligne blanche? Oui. Au moins sur 30 mètres? Oh, je dis non, 100 mètres à peu près. Vous rouliez à combien? 70? Non, j'étais à 90. Ils m'ont regardé, c'est bon, vous pouvez y aller. Je pense que ça vaut la peine de choisir de vivre dans la vérité. Bon, j'aurais pu prendre le manche. Mais mes frères et sœurs, je crois que quand on a une foi vivante, on a décidé, une fois pour toutes, de vivre dans la vérité. Une fois pour toutes, c'est une décision. Il y a un verset dans Ésaïe au chapitre 1er qui dit « Mais si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous obtiendrez les meilleures productions du pays. » Je ne l'ai pas fait pour influencer les motards. Je l'ai fait parce que c'était la vérité. Et que si on ne vit pas dans la vérité, eh bien on va perdre la foi. Pourquoi les gens perdent la foi? Eh bien parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de dire la vérité. C'est vrai qu'au travail, moi, mon propre frère, il a fait deux expériences extraordinaires avec Dieu. Vraiment, c'est un miracle. Et bien sûr, il a pris le baptême. Et quand le jour du baptême, il me dit, moi je prends le baptême pour remercier Dieu. Moi j'étais jeune converti, on a pris le baptême ensemble, je comprenais pas tout, j'avais 3 mois de conversion. Mais quand même, je me suis dit, oula, c'est un truc qui me plaît pas. 15 jours après son baptême, au travail, une église catholique, une école catholique. Il va dire, où t'étais hier? Il a dit, ben moi j'étais dans une église, j'ai été loué le Seigneur et prié. Et ils se sont moqués de lui, il est plus jamais revenu à l'église. Et il m'a dit, moi j'accepte pas qu'on se moque de moi. Je n'accepte pas qu'on se moque de moi. Il a abandonné la foi. Il a perdu la foi. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Et si on commet une erreur, il faut la réparer. Parce que, bien sûr, on va lire deux textes. Deux textes, on a lu tout à l'heure, on n'a pas lu dans Romains au chapitre 10. Il y a un texte qui montre bien qu'on peut pécher volontairement. Il y a le péché volontaire, il y a le péché involontaire. Vous êtes d'accord avec moi? Le péché volontaire, c'est bien exprimé dans Hébreux, chapitre 10, verset... Non, Hébreux. Hébreux. J'ai dit Romains? C'est impossible. C'est impossible que je me trompe. Vous le savez. Hébreux, chapitre 10, verset 26. Je ne peux pas me tromper, vous le savez. C'est pour ça que vous m'avez pris comme pasteur. Hein, pour ma perfection. Hébreux, chapitre 10, verset 26. Regardez bien, il y a le péché volontaire. Ça, c'est grave, mes frères et sœurs. Le fils prodigue vit dans le péché volontaire. Il pèche, et en fin de compte, ça ne le travaille pas. Dieu pardonne certainement. Non! Le péché volontaire, Dieu ne pardonne pas. Vous entendez? Quand on vit volontairement dans le péché, il n'y a pas de pardon. Écoutez, c'est grave ce que je vous dis. Mais c'est la vérité. Hébreux chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, il faut bien lire les mots, mes frères et sœurs, c'est sérieux, l'éternité. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce ? Le péché volontaire, c'est quelque chose de grave. Je donne un exemple. Je commets un péché. Je mens. Je mens. Qu'est-ce que je devrais faire? Demander pardon. Alors, pour bien comprendre, on va lire juste après, dans Jean. Parce que, après, d'un autre côté, ce que l'on va lire est extrêmement important. 1 Jean chapitre 1 verset 8, ces deux textes, vous pouvez les mettre ensemble. Il faut absolument les mettre ensemble. 1 Jean chapitre 1 verset 8. Alors on pourrait dire, mais ça se contredit complètement. 1 Jean 1 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc là, on a affaire au péché involontaire. Vous faites la différence entre le péché volontaire et le péché involontaire. C'est là, alors le verset 7, j'ai fait exprès de ne pas le lire au début, verset 7 du premier chapitre, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Ce verset, on le cite souvent, c'est la première partie, on dit constamment « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Ce n'est pas vrai. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché si nous marchons dans la lumière, si nous marchons dans l'obéissance. Donc il y a le péché volontaire qui prouve qu'on a rétrogradé, et si vous vivez volontairement dans le péché, je ne sais pas, vous pouvez vous faire piéger, ça peut arriver un péché. Ça peut arriver. D'ailleurs, celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il est vraiment pas bien. Parce qu'on en commet des péchés, oui ou non? En pensée, en parole, en action, est-ce que ça nous arrive d'en commettre? Mais bien sûr, on en commet. Ne jouons pas les hypocrites. On en commet, même trop souvent. Mais je fais quand même la différence entre quelqu'un qui ment et qui de suite va dire « je vous demande pardon ». Je vous ai dit ça, c'est pas juste. Et quelqu'un qui aime et pratique le mensonge, parce que celui qui aime le mensonge, c'est que ça doit lui rendre service, croyez-moi. Vous comprenez la différence entre le péché involontaire et le péché volontaire. Le péché involontaire, alors j'ai envie de dire, c'est pas grave. C'est quand même grave, parce que c'est à cause du péché que Jésus est mort sur le bois de la croix. Et ne disons pas, c'est pas grave, parce que quand même, ça peut le devenir. Vous comprenez? Ça, je ne vais pas m'autoriser à pécher une fois de temps en temps parce que ça rentrerait dans la catégorie des involontaires. Mes frères et sœurs, soyons sérieux. Parce que le gars qui commence à calculer comme ça, je pense que ça ne va pas aller. Je crois qu'on doit veiller. Si j'ai commis un péché, je le règle, je le répare. J'ai menti à une personne, eh bien je vais lui demander pardon. Ça ne devrait pas nous coûter de demander pardon. Moi, demander pardon, jamais. Vous l'avez jamais entendu ça? Dans la bouche de chrétiens? Mes frères et sœurs, quelqu'un qui dit ça, moi je peux vous dire qu'il y a longtemps qu'il a abandonné le Seigneur. Moi, demander pardon, jamais. Alors en plus, pour peu que vous soyez ancien ou pasteur, il y a des gens qui s'imaginent que parce qu'ils ont un titre ou une fonction, ils peuvent s'autoriser. Qui que nous soyons, nous devons obéir à la parole de Dieu. Jésus a lavé les pieds à ses apôtres. Il a lavé les pieds. Il a pris la forme d'un serviteur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il a pris un linge, il s'est ceint les reins. Il est le Dieu de l'univers. Je vous rappelle que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et il s'est mis à genoux pour laver les pieds des disciples. Est-ce que Jésus a perdu son autorité parce qu'il a pris la forme d'un serviteur? Vous ne perdez pas votre autorité parce que vous obéissez. Vous perdez votre autorité quand vous désobéissez. Le salut, on peut le perdre. C'est pour ça qu'il faut veiller sur son âme. Il faut être sérieux avec la croix. Il faut être sérieux avec la prédication de la croix. Il faut être sérieux avec la personne de Jésus-Christ. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Il est venu comme sauveur, mais Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Et celui qui jugera le monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et où il est votre avocat, parce que vous vous êtes repenti et converti, ou il sera votre juge parce que vous n'avez pas été sérieux, ou alors vous avez juste accepté un peu de religion en pensant qu'avec un peu de religion, vous vous mettez Dieu de votre côté. Non, la religion, ça ne vous mettra pas Dieu de côté. La religion, ça a une qualité, ça vous éloigne de Dieu, c'est tout ce que ça peut faire. Et ça cautérise votre conscience. Mes frères et sœurs, il faut être sérieux. Le Seigneur bientôt va revenir. Vous le croyez ça que Jésus va revenir? Il va revenir nous chercher. Et ou c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise? La bonne nouvelle, c'est que si Jésus est votre sauveur, ça se passera bien. Si Jésus n'est pas votre sauveur, ça se passera très mal. Même si vous faites des œuvres. Parce que là aussi, on attaque un autre sujet. Il y a des gens qui s'imaginent que parce qu'ils font des œuvres, automatiquement, ils seront sauvés. Et dans les églises, on bascule de plus en plus dans le social. Même nos églises, on pousse les gens à faire des œuvres, à donner, à faire ci, à faire là, en disant, voilà, si par tes œuvres, tu seras justifié. Et que les œuvres, ça sauve. On l'enseigne de plus en plus. Les œuvres ne sauvent pas. Par contre, c'est écrit ça, que nul ne sera justifié par les œuvres. Par contre, un chrétien qui ne fait pas d'œuvres, il a une foi morte. Et d'ailleurs, la parabole des talents, c'est une parabole, qu'est-ce qu'on voit? On voit Jésus qui explique qu'il a donné des talents à l'un, cinq à l'un, deux à l'autre, un au troisième. Vous connaissez cette parabole? Chacun n'a pas la même capacité de faire valoir des responsabilités. Ça, c'est pas grave. Un peut faire une chose, l'autre peut en faire quatre. C'est bien, mais c'est pas grave que vous puissiez en faire plusieurs ou pas. Ce qui est important, c'est de le faire valoir. Donc les deux premiers font valoir le talent. C'est dans Matthieu chapitre 25. Les deux premiers font valoir les talents. Et donc, ils s'entendent dire, entre, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, tu as été fidèle un peu de choses, je te confierai beaucoup. Ça détermine certainement que dans l'éternité, des responsabilités seront attribuées à la façon dont on aura été fidèle sur la terre. Et le troisième, lui, eh bien, il a enterré le talent. Il a enterré le talent. Et le Seigneur lui va lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, j'ai eu peur, je savais que tu es un homme dur. Parce qu'il y a des gens pour discuter, ils sont forts. Je savais que tu es un homme dur, que tatati, tatata, que en plus il fait une espèce de parabole à son tour. Vous voyez, que tu sèmes ou tu n'as pas semé, que tu récoltes. Vous voyez, il y a des gens, ils sont forts pour noyer les poissons. Et la Bible, on va lire la conclusion. On va la lire cette conclusion. C'est pas moi, vous savez, qui parle. C'est Jésus, c'est par rapport aux œuvres. Et c'est surtout par rapport à la paresse. Et si vous êtes paresseux, moi je vous dis que je vous plains, vraiment je vous plains. Je ne dis pas de tomber dans l'activisme, bien au contraire, parce que Dieu est contre l'activisme. Je crois qu'il faut faire qu'une chose, mais de la faire. Matthieu 25, voyez, verset 25. Il y a des gens, vous savez, pour parler, ils sont forts, croyez-moi. Matthieu 25, verset 25, j'ai eu peur.
et je suis caché, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Ça reflète que ce serviteur connaissait pas son maître. Quand vous connaissez le Seigneur, vous avez envie de le servir, si je peux vous le dire. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Ça, c'est comme on a vu la foi tout à l'heure, là c'est la paresse. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Vous voyez combien le Seigneur demande un petit effort. On peut faire des petits efforts quand même, soyons sérieux. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à ceux qui ont les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et la conclusion, elle est d'une sévérité totale. Je vous rappelle que c'est Jésus qui parle. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors le gars, il est perdu à cause des œuvres ? Non, il est perdu parce qu'il est méchant et paresseux. Méchant, c'est un mot qu'on utilise n'importe comment dans le monde, mais bibliquement, c'est quelqu'un qui n'a plus de communion avec Dieu. Les pécheurs, c'est les pécheurs. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont jamais accepté Jésus-Christ. Ils sont irrémédiablement perdus. Les méchants, ce sont des chrétiens qui ont abandonné Dieu, qui n'ont plus de communion avec Dieu. C'est pour ça qu'il est dit que le méchant retourne à Dieu. C'est quelqu'un qui connaissait Dieu. Et la méchanceté prouve, cette méchanceté est le résultat, qu'il n'y a pas de communion avec Dieu. Et comme je n'ai pas de communion avec Dieu, eh bien je ne fais pas ce qu'il me demande. Donc si vous êtes paresseux, ça peut être révélateur d'un gros problème de communion avec Dieu. Si vous ne faites rien pour Dieu, je le répète, vous ne serez pas sauvés par les œuvres. Par contre, les œuvres que Dieu vous demande de faire, elles vous suivront. Tout à l'heure, on va donner son offrande. Si vous le faites de tout votre cœur, c'est quelque chose qui est comptabilisé. Vous l'acceptez, vous le comprenez ou pas, c'est comme ça. Dieu comptabilise tout ce qu'on fait pour lui, à partir du moment où on le fait de tout son cœur. Bien sûr, si vous le faites parce que le pasteur vous dit qu'il faut donner la dîme, c'est sûr que ça n'a pas de valeur. Il faut faire les choses de tout son cœur. Dieu aime celui qui donne avec joie, sans contrainte. C'est écrit ? Voilà, sans contrainte. Je le fais, je l'ai à cœur. Dans mon cœur, il y a ce désir. Je le fais parce que c'est une conviction. Tiens, je soutiens ce projet. Oui, à Sainte-Anne, ils forment des pasteurs. Ma dîme contribue à la formation de pasteurs. Eh bien, je suis d'accord. Voilà, je le fais par conviction. Je ne le fais pas bêtement parce que quelqu'un me le demanderait de le faire. Je le fais par conviction. Ça s'appelle faire l'œuvre de Dieu. Et là, on a affaire à quelqu'un qui ne fait rien. Alors c'est vrai que le diable il peut nous pousser pour qu'on ne fasse rien pour Dieu. Vous croyez que le diable il peut nous pousser ? On a aidé une personne, on a aidé deux personnes, on a aidé trois personnes, on s'est fait avoir. Ça vous est jamais arrivé de vous faire avoir par des gens ? Nous on a eu donné des gens, de l'argent à des gens qui disaient qu'ils n'en avaient pas, ils en avaient 100 fois plus que nous. Quoique c'était facile. Mais je veux dire, on l'a fait. On aurait pu dire, ah ben on s'est fait avoir. Ah ben c'est terminé. Eh ben moi je ne donnerai plus, on ne m'y reprendra plus. Ça nous a tous passé à l'esprit, ça, non ? Est-ce que ça ne vous a pas passé à l'esprit, ça ? Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Comme on aime le Seigneur, eh bien, 6 mois après, une situation s'est représentée et on a aidé. Oui ou non ? On a bien fait ? Eh bien sûr qu'on a bien fait, mes frères et sœurs. La paresse, c'est révélateur d'un manque de communion avec Dieu. Et mes frères et sœurs, moi je vous le dis, je suis votre pasteur, je dois vous le dire. Vous devez savoir ce que Dieu veut que vous fassiez. Même si vous avez 97 ans. Vous êtes damné, Madame Garrien. Même si vous avez un mois de conversion, peut-être que c'est qu'un quart d'heure de prière. Pourquoi Dieu garde Madame Carrière sur la terre ? Parce qu'elle me pose souvent la question. Monsieur Hugo, je ne comprends pas pourquoi Dieu me garde encore sur la terre. Il y a deux choses. Ou Dieu vous a oublié, ce qui m'étonnerait. Ou alors Dieu a encore besoin d'elle. Est-ce que vous croyez que Dieu peut avoir encore besoin d'elle ? Eh bien sûr ! Parce que notre sœur, elle fait certaines choses pour le Seigneur. Et parce qu'elle prie. Vous ne priez pas, Madame Carrière ? Et voilà, vous priez pour moi ? Arrêtez de prier pour moi et le Seigneur il va vous reprendre. Mais ce n'est pas vrai, est-ce qu'il ne faut pas prier ? Mais mes frères et sœurs, tant que Dieu nous laisse sur la terre, c'est qu'il a besoin de nous. Vous le croyez ? Et même si vous êtes une grand-mère fatiguée, vous ne pouvez passer qu'un quart d'heure par jour à prier, ce quart d'heure a plus de valeur que peut-être que tout ce qui se voit dans une assemblée. Et au jour du jugement, je peux vous dire qu'on va avoir des surprises. Qu'il y a des pasteurs qui ont été vus toute leur vie dans les églises. On ne les verra pas dans le ciel. Et il y aura des pépés, des mémés, des chrétiens qu'on n'aura jamais vus dans l'église tellement ils étaient discrets. Et bien ils auront la première place dans le ciel. Pourquoi ? Parce qu'ils auront fait ce que Dieu leur demandait.
Mais ce sont des textes qui devraient nous faire réfléchir. À partir du moment où Jésus parle de pleurs et de grincements de dents, à partir du moment où Jésus parle du ciel et de l'enfer, moi il me semble qu'on devrait quand même s'arrêter un peu sur ces textes. Que vous ne compreniez pas le Cantique des Cantiques, que vous ne compreniez pas le livre du Lévitique, que vous ne compreniez pas l'Apocalypse, etc. Moi je vous le reprocherai pas. Mais les textes qui nous parlent du ciel et de l'enfer, moi il me semble qu'on pourrait tous s'y arrêter. Oui ou non ? Est-ce que j'exagère ? Mes frères et sœurs, reprenez les évangiles et regardez comment Jésus parle sévèrement à ces pasteurs qui ont été hypocrites. Eh oui, parce qu'on ne veut plus parler de l'enfer. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est mort sur la croix pour vos péchés. Ce n'est pas un homme, c'est le Seigneur du ciel et de la terre. Est-ce que vous le comprenez ? Il est mort, vous vous rendez compte ? Il a versé tout son sang. Vous rappelez à la fin, pour vérifier qu'il était bien mort, on a demandé à un soldat de percer son côté. Vous connaissez l'affaire. Qu'est-ce qu'il est sorti ? Du sang et de l'eau. Du sang et de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il avait versé tout son sang. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et Dieu est venu sur la terre, il a donné son fils. Vous vous rappelez la première fois que vous avez eu un enfant ? Qui a eu un enfant dans l'église ? Qui c'est qui est papa ou maman ? Vous avez eu un enfant. Vous vous rappelez la première fois que vous avez tenu votre fils dans vos bras ? Vous vous rappelez ? Non ? Vous vous rappelez ? Moi, je me souviens des premières choses que j'ai pensées quand j'ai vu ma fille au bout de 2-3 mois, que je l'ai pris dans mes bras. Enfin, je l'ai pris avant. Mais j'ai pensé... Non, mais... J'ai pris ma petite dans mes bras. Et je me suis posé la question, est-ce que tu la donnerais en sacrifice ? Sérieusement. Moi, franchement, donner ma vie pour vous, je le dis franchement, je le ferai. Je le ferai. Mais donner ma fille, ou mon fils, mais le premier qu'on a, c'est quelque chose quand même. Et j'étais là, je la tenais à mes bras, je me dis, je ne pourrais pas. Franchement, je vous dis la vérité, moi, je ne pourrais pas donner mon enfant. Et le Seigneur, il l'a fait. Pourquoi ? Pour qu'on n'aille pas en enfer. Il a donné sa vie. Il a donné, et il est mort d'une manière ignominieuse. Alors mes frères et sœurs, oui, on peut perdre le salut. On peut perdre le salut, on n'a pas pris tous les textes, je n'ai même pas commencé mes notes. Mais mes frères et sœurs, est-ce que ça ne vaut pas la peine de dire au Seigneur, oui, on te remercie pour la Sainte Cène ? Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est le plus grand repas qui existe sur la terre. C'est peut-être le plus petit en quantité, ça c'est sûr. Mais est-ce que ce n'est pas le plus grand repas ? Ah, moi je le dis devant Dieu, le plus grand repas c'est celui-là. Alors on va se recueillir, on va le faire avec cœur, parce qu'il nous rappelle que notre Dieu, le Créateur des cieux, le Créateur de l'univers, de tout ce qui existe, le Créateur des anges, le Créateur des nouveaux cieux. Vous pourriez enlever tous les pavés d'or qu'il y a dans les nouvelles rues des nouveaux cieux. Vous ne pourrez rien acheter. Pas une goutte du sang de Jésus. Je parlais tout à l'heure de si quelqu'un avec 3 kilos d'or. Mais mon pauvre, vous pourrez prendre tout l'or du monde, tout l'or du ciel, tout l'or du paradis. Vous ne pourrez pas payer une goutte de son sang. Parce qu'il est incomparable. Et il a donné sa vie. Est-ce que vous pouvez, dans votre cœur, lui parler au Seigneur ? Lui dire quelque chose ? Est-ce que vous pouvez dire au Seigneur un mot ? Répondez-lui, il a le pouvoir. Il a le pouvoir d'écouter tout ce qui se passe dans le cœur de nos mains. Et je crois que ça vaut la peine qu'on le remercie. Oui, Janson est toujours fidèle. Et quand il disait ça, je pensais, peut-être plusieurs comme moi pensaient à des gens qui ne le sont plus. Moi, j'ai pensé. Ces gens-là, s'ils ne se repentent pas, s'ils ne se re-repentent pas, ils iront en enfer, où ils connaîtront la colère de Dieu, comme ces vierges folles qui, oui, ont été cataloguées de folles parce qu'elles n'ont pas été sérieuses avec lui. Là. Il faut être sérieux avec la communion, mes frères et sœurs. Il faut être sérieux, avec le salut, Non, on n'est pas sauvé une fois pour toutes. On est sauvé une fois pour toutes si on reste fidèle. Si vous n'êtes pas fidèle, repentez-vous. Je m'adresse à ceux qui ne prendront pas le pain et le vin parce que vous n'êtes pas encore convertis, parce que vous n'êtes pas encore baptisés. Repentez-vous. Repentez-vous. N'endurcissez pas votre cœur. Si vous êtes enfant de chrétien, vous êtes ado, vous dites, ben on verra bien, on attend, peut-être que Jésus reviendra que dans 100 ans ou dans 1000 ans. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, repentez-vous. Les jeunes, les ados, donnez votre vie à Jésus-Christ. Donnez-lui votre vie. Elle n'est pas à vous, votre vie. Votre vie, elle appartient à Dieu. Donnez-la lui. Et prions quelques instants. Notre Père, notre Dieu, nous sommes bouleversés quand nous réalisons que toi, le Créateur des cieux, tu es venu sur la croix, qu'il a plu à l'Éternel de te briser par la souffrance. Tu as porté nos iniquités. Nous étions irrémédiablement condamnés, perdus à jamais, et ton sang nous a lavés. C'est pour cela, Seigneur, que nous sommes vraiment, mais vraiment heureux de prendre ce petit peu de vin. Oui, Seigneur, nous te le disons ensemble, c'est le plus grand repas de la semaine. Ce petit peu de vin et ce petit morceau de pain. Parce qu'il nous rappelle que sur la croix, il y avait le plus important qui ait jamais existé. Ta présence, Seigneur. Merci pour ton pardon. Merci d'avoir institué la scène. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Levez-vous, frères et sœurs, si vous êtes baptisés par immersion, si vous avez donné votre cœur à Jésus, mais levez-vous devant le Seigneur et parlez-lui à mi-voix, si c'est à haute voix, que tout se fasse avec ordre, mais répondez-lui. Répondez-lui à votre Dieu. S'il est votre Dieu, vous êtes heureux. S'il est votre Sauveur, vous l'êtes encore plus. S'il est votre Rédempteur, votre ami, alors là, c'est le top niveau, c'est sûr, dans la communion. Mais remercions-le, mes frères et sœurs.